Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Jean-Pierre Guy, Gaétan Gosselin avec vous. Bonsoir. Salut Gaétan.
Salut Jean-Pierre.
Alors Gaétan, ce soir, on a quelqu'un que tu connais bien qui est avec nous, Stéphane Caron. Salut Stéphane.
Bonsoir.
Salut Stéphane.
Stéphane Caron qui est un artiste multi-instrumentiste et de tout horizon, si on peut mettre des Z partout là.
À défaut de mettre des F.
À défaut de... pour d'autres raisons. Oui, puis donc, c'est le fun de t'avoir avec nous autres, Stéphane, parce que on se disait, toi qui travailles chez Recto Verso avec, entre autres, Gaétan, ben on se disait que tu avais eu l'occasion, toi, dans ta vie, de faire beaucoup de pièces sonores pour des pièces de théâtre, juste au départ, mais aussi ta propre musique. Puis on sait que tu as collaboré aussi avec un certain nombre de groupes, dont les fameux standardistes, où j'ai eu l'occasion de te voir pour la première fois chantant...
Flagrant délit.
Un flagrant délit de plaisir.
De tendresse.
De tendresse, oui. Ouais. Donc, j'ai eu l'occasion de te voir là-dedans. Mais ce soir, donc, tu vas nous parler de tes choix en art sonore et ou en composition pour des fins théâtrales ou autres.
Bien, je me suis beaucoup questionné quand vous m'avez invité parce que art sonore, ça semble spécialisé. En 2016. Moi, je fais surtout de la composition musicale pour le théâtre, pour la télé, pour des shows, même pour des humoristes. J'ai tenté de l'art sonore, mais pas tant que ça. Donc, j'ai fouillé dans mes affaires, puis j'ai trouvé des trucs qui pouvaient se rapprocher de ça, ainsi que des sélections musicales qui peuvent relever de l'art sonore, mais la plupart datent pas mal. Mais c'est pas grave, ça nous permet de revoir historiquement d'où ça vient.
Ben écoute, on va d'abord commencer par... t'as fait un montage de plusieurs de tes compositions pour le théâtre.
Oui, c'est une sorte de portrait de ce que je fais. Là,
ou une manière de best-of.
Ou ouais, une sorte de best-of, ça va faire 20 ans l'an prochain, je fais ça au théâtre. C'est qu'il y a quand même des contraintes quand tu fais de la musique au théâtre. C'est pas la liberté, entre guillemets, la liberté de l'art sonore. Mais bon, dans certains cas, ça peut être assez expérimental.
Ça peut être assez éclaté.
Oui, tout à fait. Ça dépend des contraintes.
Gaétan?
Ben, on pourrait donner quelques titres tout de même avant de démarrer la piste qui dure 9 minutes, soit dit en passant. On achève bien les chevaux. Une pièce qui a été présentée au Théâtre Nouveau Parking. Daniel Lemire, parce que tu dis avoir travaillé avec Stéphane, avec des gens de l'humour. Donc, c'est dans le cadre d'une tournée. La Nuit de Valogne, qui était présentée au Trident. Stéphane, il y a quelques années tout de même de ça.
2009.
Macbeth.
L'an dernier.
Les Justes, Théâtre de la Bordée, Renaissance du Trident, Des Fraises en janvier, théâtre d'aujourd'hui, Cyrano de Bergerac au Trident, Les Mains sales au Trident, Les Caprices de Marianne au Trident également, Gagouk, Théâtre sous zéro, Édipe à Colonne, La Guerre des Tucs, Le Misanthrope à la Bordée, Richard III également à la Bordée. Donc, on va écouter des...
Ça donne déjà une bonne indication de la diversité des horizons compte tenu de la diversité des sujets qui sont abordés. On peut imaginer que ça va être assez diversifié aussi. Alors, on y va, Gaétan.
Thank you.
C'est vraiment diversifié. On est dans toutes sortes de... Bien, évidemment, on est dans quoi? Une douzaine de pièces, quinzaine de pièces de théâtre. Là. Ouais. On a eu des fragments d'à peu près 5-6 secondes. Toi, t'arrives, quand vient le temps de produire une bande sonore pour une pièce, évidemment, t'as pas d'orchestre, t'es obligé de travailler avec des...
Avec mon budget.
Avec ton budget. Évidemment, au théâtre, c'est pas les budgets sont pas illimités, sont même limités.
On n'a pas un budget de Deutsche Grammophon.
Donc, tu travailles avec des claviers, des bebelles.
C'est de la recherche. Là est la recherche sonore. Il faut trouver un son qui a de l'ampleur. Je prends un exemple de... Je te disais tantôt Cyrano de Bergerac, là,
oui.
Qui est une espèce de pièce épique, puis une espèce de casting de 12 comédiens, puis c'est gros. Je pouvais pas avec une petite guitare, puis là tu as toujours la référence
le personnage. Le personnage aussi, qui est un personnage haut en couleur et tout ça.
Puis ça commençait dans un entrepôt. Un comédien arrivait dans un entrepôt, puis trouvait le masque avec le nez, puis on partait la pièce. Fait que là, il y avait un moyen de faire quelque chose de moderne mélangé à de l'épique ou du classique. Je passais pas devant le micro, c'est ça que tu me dis? Puis finalement, j'ai utilisé des bandes d'orchestre avec des petits fragments d'accents de violon. Puis j'ai construit de l'électronique par-dessus ça. Puis ça s'est fait très vite. Écoute, je me suis à peu près pas du processus parce que je cherchais, puis le temps passait. Puis ça s'est fait sur le fly assez rapidement, avec peu de choses.
Peu de choses. Comme souvent, ça doit arriver. T'as des commandes assez rapidement, puis t'es obligé de produire, puis...
Les commandes sont assez variées. Il y a des metteurs en scène qui savent assez précisément ce qu'ils veulent, surtout ce qu'ils veulent pas. Il y en a d'autres qui sont moins musicaux. Si je prends l'exemple de Marie-Josée Bastien, avec qui j'ai fait trois Shakespeare, puis on achève bien les chevaux, elle écoute de la musique sans arrêt.
Ah oui?
À même 65 tunes avant que j'ai composé une seule note qu'elle place déjà partout. Là.
Puis, elle a déjà un certain alignement.
Elle connaît ça. Fait que si t'arrives avec une affaire un peu convenue, tu te dis, c'est ça. Il faut que tu cherches plus loin. Mais c'est ça. Puis il y a d'autres... Bon, tout ça pour dire qu'elle, dans ce cas-là, elle est très sensible à la musique, elle écoute beaucoup. D'autres qui sont moins sensibles à ça, sont plus sensibles, je sais pas, au mouvement, au décor. Là, il faut que tu te creuses tu fais tes suggestions.
Mais t'as parfois, Stéphane, des metteurs en scène qui ont une ligne directrice très, très précise. Là. Tantôt, tu nous parlais, c'est pour Agaguk, je pense, qu'il y avait une ligne... une ligne Frank Zappa.
Frank Zappa. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le théâtre du zéro, mais c'est assez...
c'est Fabien.
C'est toujours un humour. Ben, Fabien avait écrit le texte pour La Guerre des Tucs, mais il jouait dans Agaguk, il jouait dans le Conte d'Hiver, je ne me souviens plus. C'est Jean Bélanger
Jean Bélanger.
Puis c'est un fan de Zappa. Ben puis écoute, c'est pas de problème. Si ça te rend heureux, je vais le faire. Puis c'est un album de Zappa que j'aime beaucoup. Fait que j'ai dit, gars, je vais faire une espèce de... Je vais me puiser là-dedans. Je vais essayer de reproduire des sonorités avec des musiques originales. Comme pour La Guerre des Tucs, où j'ai pastiché all over Ennio Morricone. Il n'y a aucune mélodie d'Ennio Morricone dedans, mais le mixage, le son, la recherche sonore, on va essayer d'avoir l'équivalent du grand thème de L'été d'une fois dans l'Ouest, même des accents, à un moment donné, de Cinéma Paradiso, pour quelques dollars de plus, là, c'est quand même... dingue de penser à mettre ça dans la Guerre des Tucs.
Ben oui, la Guerre
des Tucs. Mais oui, je plonge. J'appelle ça des commandes. Donc, c'est de l'art audio de circonstance.
Ben oui, donc tu joues avec les sons pour pouvoir... pour que ça puisse aller avec une pièce de théâtre et un concept. On va enchaîner, tiens, avec d'autres choses qui s'appellent Félicité.
Ah, ça, c'est un cas particulier. C'est une pièce d'Olivier Chouanière qui a été montée à Bordeaux en 2012 par Michel Nadeau. Ça se passe, comment décrire, je sais pas si vous connaissez la pièce, mais ça se passe dans un Walmart. C'est deux scènes, il y a Céline Dion qui est mélangée à ça, une Céline Dion imagée, fantasmée, et un truc sordide qui s'est passé à Sherbrooke, le viol d'une jeune fille par son père, sa mère.
Oh mon Dieu.
Olivier Chouanière est rentré dans un métro, puis il a vu une revue avec, à gauche du journal, Céline Dion est heureuse à Las Vegas, page de droite, cette histoire sordide-là. En est sortie cette pièce où des gens qui travaillent et vont chez Walmart trippent sur Céline Dion. Il a fait une espèce de récit imagé qui est aussi, qui est vraiment pas dans la réalité. Donc, j'ai utilisé des sons de Walmart que je suis allé enregistrer sur place. On accueillait le public avec de la musique en canne d'ascenseur pendant 20 minutes. Le public arrivait, puis il y avait une petite musique du genre qui peut jouer dans un centre comme Walmart. Mm-hmm. C'est des... Moi, j'ai puisé dans ma collection de musique instrumentale québécoise d'antan. Puis il y a toute une espèce de montage. J'ai même fait une fausse tune de Céline Dion avec, qui joue dans le Walmart. En fait.
Donc, on est dans le field recording, puis dans la création aussi.
Oui.
Alors, on est dans l'art sonore. Alors, donc, il y avait une voix un petit peu en arrière.
Fantomatique. Et c'est l'esprit de Céline.
C'est l'esprit de Céline Dion.
C'est ouais. Céline Morphée.
Donc, ça, c'était dans un contexte d'une pièce d'Olivier Chouanière,
oui.
Et toutes ces espèces de contradictions qu'on a dans notre société.
Oui.
Des choses aussi heureuses que d'entendre Céline Dion chanter avec...
Dans un Walmart.
Dans un Walmart. Oui, oui d'ailleurs, c'est sa voix qu'on entendait aussi. Oui. Prochaine pièce, Elvire Jouvet.
C'est une pièce montée par Michel Nadeau au Théâtre Nouveau Parking en 2008. Mm-hmm. C'était autour de Louis Jouvet, célèbre comédien qui enseignait. C'est une pièce qui a été écrite à partir d'une vraie histoire, je pense, d'une jeune étudiante en théâtre qui était juive et enseignait lui durant la guerre. Puis elle était obligée d'arrêter sous les nazis, l'occupation nazie, puis elle est disparue. Donc il y avait toute une recherche d'archives d'époque. Mm-hmm. De mise en contexte, parce que c'est un texte assez dense, puis entre les scènes, j'insérais des moments précis dans l'évolution, dans le temps, 39, 40.
Donc, 45. Ça faisait la chronologie.
Ça faisait la chronologie, donc il y avait un montage. Ce que j'ai amené ne rend pas bien, parce que j'avais toute une, entre guillemets, spatialisation dans le théâtre périscope. J'avais pas passé 6 caisses de son, puis les avions passaient de gauche à droite autour. Mm-hmm. Donc, j'ai fait un montage left-right de certains sons, gauche-droite, mais ça donne une idée de
on va imaginer un avion. Là,
le contexte d'époque. Voilà.
Monsieur Louis Jouvet, grand homme de théâtre, a aussi été professeur au Conservatoire de Paris. Ses cours ont été donnés en 1940.
L'aviation de bombardement ennemi attaque les ports. Il y a de nombreuses victimes. En sa rage meurtrière, l'ennemi frappe de monceaux de ruines.
Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France. Et les armées sont arrivées à Paris. L'Allemagne triomphait vraiment.
Das ist es voll, eigentlich verweigert ihr, sondern das ist Arbeiter.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander
qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Aux populations françaises de la Nouvelle-France, de la France d'outre-mer, vous, les hommes libres, vous, les hommes libres, vous, les hommes courageux,
dans l'honneur et dans l'indépendance.
La guerre n'est pas perdue, la patrie n'est pas morte.
À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Au pied de la gigantesque statue La France nouvelle, se dégageant de l'emprise juive, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition. Ils ont montré la France et la plus totale des faits de l'histoire.
Juste avancer un peu, parce que les auditeurs n'ont pas
compris. Oui, c'est Lorraine Côté qui faisait la mise en scène.
Et non pas Michel Nadeau.
Si je peux faire une petite parenthèse.
Oui, vas-y.
Il y avait beaucoup de travail en amont là-dessus, de recherche sonore, oui. De fichiers. Ça, c'est une grosse job pour ça. Parce que c'est très typé, c'est très d'époque. J'ai un extrait d'octobre 70 aussi. J'avais énormément d'extraits d'époque, mettre en contexte, McGill, français, toutes ces affaires-là. Donc, des fois, dans le montage, j'ai toute une... j'appelle ça ma revue de littérature.
Ouais, c'est-à-dire que nous, on a droit à 2 minutes et demie, ouais, mais il y a tout un... C'est un condensé de plusieurs choses. Ouais. Ben, écoute, on va écouter... tu viens de parler d'octobre 70. Oui. On va le garder, cette pièce-là, pour le retour. On va s'en aller vers la pause publicitaire avec une pièce qui s'intitule « 1000 anonymes » pour une...
Oui, ça c'était fait live avec une table tournante, des CD, toutes sortes de bruits.
En 2011.
Avec Daniel Danis, là, on faisait de la recherche, puis c'est oui, c'est ça. Fait que c'était un mélange de toutes sortes d'affaires, là, mais fait en direct. Donc c'est une autre façon de travailler, mais j'adore ça aussi.
Donc on a une captation de ça.
écoutez CKRL 89.1.
Hey Tania, j'aimerais ça faire de la radio à CKRL.
Jean-Michel, t'en fais déjà, tu fais plein de voix de pub pour nous autres.
Non, je sais, mais je veux dire, j'aimerais ça faire une émission.
Ah, mais ça tombe bien, on est en période de recrutement pour la saison d'été. Tu vas sur notre site, il y a une section « Proposer une émission », tu remplis le formulaire.
OK, puis j'ai jusqu'à quand?
Jusqu'au 1er mai.
Merci.
Mais là, veux-tu vraiment faire de la radio ou c'est juste une mise en scène pour la pub?
Ouais, c'est ça, c'est juste la mise en scène que tu m'as demandé de faire pour la pub.
Ah.
Regarde!
Vous avez envie d'entrer dans les rangs de CKRL? De partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été.
Mes larmes de métal.
Montréal New Wave, retour vers le futur.
Qui vous dit que je n'en mourrai pas? Ne cherchez pas l'amour avec moi.
Un film de Éric Simon.
Si t'es pas sport, reflet de rêve.
À l'affiche dès le 29 avril au Cinéma Quartier. À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle.
Avalé. Disparu. Oublié.
Lorraine Côté propose un extrait de la pièce « Qui a peur de Virginia Woolf » présentée au Théâtre de la Bordée.
Mais très loin à l'intérieur de moi-même, pour que personne s'en aperçoive. Je pleure tout le temps.
Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv.
J'ai des essuie-glaces sur mes yeux, mon Georges, depuis que je t'ai épousé.
Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Deuxième demi-heure de l'aérospatiale, toujours Gaétan Gosselin, Jean-Pierre Gay et notre invité, Stéphane Caron, auteur, compositeur, interprète et...
mutant.
Mutant. Écoute, Stéphane, on poursuit tes expérimentations. On a parlé beaucoup de ton travail. Il nous reste encore une pièce à entendre par rapport à... Une pièce qui n'est pas banale, c'est... qui parle d'octobre 70, c'est une pièce de théâtre, puis qui faisait référence aussi aux événements d'octobre.
Martin Genet qui avait montré ça, en 2008 à la caserne de Louzy, puis il y avait une espèce de gros enclos à trois étages monté par Jean Hazel. On voyait l'appartement de la rue Armstrong, mm-hmm, du dessus. C'était inspiré directement du livre de Francis Simard. Mm-hmm. Donc, c'est ça, on a essayé de recréer le climat d'époque. Moi, j'avais fait une grosse recherche d'archives sonores, parce que encore là, à l'entrée du public, il y avait 20-25 minutes. Puis je suis tombé là-dedans comme un maniaque d'un plat de bonbons.
Mais quand tu parles d'archives sonores, quand tu parles...
De ces années-là.
De ces années-là, donc de musique de ces années-là.
Non, de d'archives radio, de ce qui se passait.
OK, donc...
Mais je faisais de la musique. Là, mon défi, c'était de mettre une tension pas trop mm-hmm, évidente. Là. Je faisais pas le thème de Psycho sur l'assassinat de Pierre Laporte. Mais mettre une ambiance stressante, là, parce que c'est les cinq personnages qui étaient là subissaient un stress assez intense. Mais toute la mise en contexte était là. J'avais mis plein d'extraits de McGill, Français, mm-hmm, Saint-Jean-Baptiste 68,
oui,
tout,
Trudeau.
Plein d'affaires. Trudeau, mm-hmm, beaucoup d'extraits.
J'imaginais que tu devais avoir Trudeau, parce que Trudeau qui avait envoyé... promener les gens.
Tout ce qu'il disait progressivement Radio-Canada, faudrait contrôler ça. Il y a probablement trop d'idées séparatistes là-dedans, etc. Bon, bref. Une mise en contexte, plus une bande son là, un peu rochante, là, un peu stressante.
Un droit absolu. C'est ce que la Charte canadienne des droits de l'homme entend faire. Elle reflète la proposition du gouvernement fédéral qui consiste à reconnaître et à protéger avant tout les plus fondamentales de nos valeurs sociales. Elle reflète aussi la conviction du gouvernement que cette reconnaissance et cette protection ne seront efficaces qu'en autant qu'elles vaudront pour tous les Canadiens d'une manière permanente, c'est-à-dire constitutionnelle. La réalisation de cette fin demande la coopération des divers. Or, nous croyons que cette charte est non seulement une excellente chose en elle-même, mais
on ne possède aucun indice nouveau quant au sort de l'attaché commercial de Grande-Bretagne à Montréal, M. James Richard Cross, qui a été kidnappé ce matin par 4 individus armés. Déjà avant, depuis 8 heures ce soir environ, des groupes séparatistes se sont présentés brandissant des drapeaux fleurs-de-lysée et ont crié des slogans à tue-tête et les agents de la police de Montréal ont essayé de les maintenir. On a dû faire intervenir également les policiers à cheval et là présentement c'est l'arrêt du défilé momentanément. Il se produit quelque chose à l'estrade d'honneur. Il est regrettable que tous ces incidents se produisent. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent. Alors, M. Trudeau a décidé de rester à l'estrade d'honneur et il a en cela refusé d'obéir aux personnes qui étaient autour de lui.
Donc, il y a une divergence aussi très, très profonde là, quant aux moyens d'action du mouvement.
Les moyens d'action du mouvement ouvrier, le peuple, son moyen d'action, c'est l'électoralisme. Moi, je crois en la démocratie politique. Il n'y a pas trois façons de prendre le pouvoir, il y en a deux. Oui. Par les armes, ou bien non, par les élections. Oui. Puis quand on est en tête des mouvements ouvriers, puis qu'on se fait fourrer par les vieux partis, puis par le capitalisme, on leur dit faut aller au pouvoir, mes petits frères.
Par les armes?
Ben, pas par les armes, par l'électoralisme. Mais croire dans l'électoralisme, c'est pas croire dans un vieux parti, faut pas se mêler.
Ah bon, ah bon.
Donc, voyons donc. Autrement, on est des puérils puis des innocents. On va continuer de se faire à manger.
J'apprends là-dessus, je vous remercie beaucoup.
C'est simple, notre affaire, hein?
C'est simple, c'est j'apprends. Merci.
Je suis actuellement sur l'avenue McGill, face à l'entrée principale de l'Université McGill. Il y a quelques instants à peine, s'est produite une échauffourée assez grave sur l'avenue McGill, face à l'entrée principale. Je viens de voir, à quelques pas de moi, des policiers arrêter deux manifestants. Et je pense qu'il y aura très bientôt d'autres arrestations.
Je parlais tout à l'heure de cette autre institution, Radio-Canada. Et là encore, l'argent des contribuables ne sert pas toujours aux fins de former un Canada uni et fort. Et c'est pour ça qu'on paye des taxes au fédéral. Et je ne veux pas passer sous silence le travail énorme qui a été fait par les nouveaux directeurs de Radio-Canada depuis 2 ans. Et je sais que c'est un travail dur et un travail de tous les jours pour essayer de faire en sorte que sortent de cet appareil des opinions objectives et un petit peu moins de séparatisme. Et je sais que c'est notre responsabilité, ça aussi. Je vous le dis, qu'ils ont un travail difficile et c'est pas sûr qu'ils vont réussir. Moi, j'ai confiance. Mais s'ils réussissent pas, on va les prendre, nos responsabilités, nous, au gouvernement. Puis on la mettra, la clé, dans la boîte.
soit absent d'aucune partie du Canada, mais surtout pas du Québec. Et je vous dis, quant à nous, et quant à vous...
Ouais. Ouf, hey, moi, écoute, j'étais étudiant à l'université à l'époque et je commençais à me convertir à la cause indépendantiste. Et je me rappelle, mais il y a des choses dont je me rappelais.
C'est un rebirth,
là. Hey, là, c'est vraiment là, parce que je me rappelle très bien de cette crise-là, puis à l'époque, les années 70, tout ça, là, mais je me rappelais que Trudeau avait été quand même assez. Avait parlé raide, mais je me rappelle, il n'avait pas été aussi méprisant à l'égard de Radio-Canada particulièrement, là, puis de ceux qui l'avaient. Dont il disait qu'il avait infiltré Radio-Canada.
Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'avais quoi? J'avais 7 ans à cette période-là, à cette époque-là. Fait que je suis allé innocemment, je me souviens vaguement de certaines choses, mais en faisant des recherches d'audio, parce que j'avais quand même 25 minutes d'entrée de public à remplir. Puis c'est ça le fun là-dedans, c'est que tu fais une recherche, tu découvres plein d'affaires. J'appelle ça ma revue de littérature, mais là, j'ai découvert toutes sortes d'affaires. Là, j'en ai mis quelques-unes, mais... Puis quand t'es mis en ordre chronologique, t'as Chartrand qui dit ça, t'as Bourgo qui dit ça, t'as Lévesque qui dit ça, t'as Trudeau qui dit ça.
Oui.
Là, t'as vraiment un contexte... Puis là, tu pars la pièce là-dessus. Puis t'as vraiment plus... une autre façon de voir la chose.
Ça, c'était qui était metteur en scène?
Martin Genet.
C'est Martin qui avait fait ça. Ben ouais, c'était... t'as vraiment dû t'amuser à retrouver... mais t'as dû être un peu étonné de retrouver ce type de choses-là que t'as faites quand même il y a quelques années. Là.
Ouais, ça fait un bout. Ben, ouais, j'ai réécouté ça ces deux derniers jours. J'ai dit, ah oui, il y avait ça. Ouais, c'est quoi? Des fois, on travaille comme des débiles, là, puis on se souvient plus. Puis là, tu te fais, hey, OK, j'ai pêché ça. Non, c'est le fun. C'est bien content, ce truc-là, ouais.
Ben, Stéphane, il nous reste encore, un bon 15 minutes pour l'émission. On pourrait, puis je sais que tu as encore beaucoup de choses à nous faire découvrir. On pourrait peut-être y aller. De quoi on a parlé tantôt?
La 7. Léo Cuper.
La 7. Léo Cuper. L'enclume des forces.
Oui. C'est, vous voyez, là, je sais pas si je me qualifie, en guillemets, d'artiste sonore. J'ai aucune idée. Est-ce qu'un bassiste pop... Je viens surtout de la pop, moi, en fait. J'ai appris Smoke on the Water à 11 ans sur une guitare, puis j'ai écouté toutes sortes d'affaires, du jazz, puis j'ai abouti au théâtre. Je me considère comme un artiste sonore circonstanciel. commande.
Mais il y a quand même quelque chose. Pas pour te côtoyer. Tu sais, on se connaissait un peu, mais là, on a eu l'occasion de travailler dans le même local dont Gaétan est notre patron. Et pour te côtoyer, j'ai quand même noté que tu avais des goûts assez éclectiques au plan musical. T'aimes beaucoup la musique, t'aimes beaucoup la chanson aussi. Puis des fois, on partageait nos affaires. Tu sais, on se posait des questions sur connais-tu telle affaire. Puis je me suis rendu compte que tu avais une culture musicale très très ouverte. Et quelque part, c'est l'art sonore pour toi, c'est peut-être pas nécessairement de la musique, mais en même temps, je pense pas que ça te sois rébarbatif à ça.
Non, je pourrais pas rébarbatif du tout. J'ai fait toutes sortes de trucs. J'en ai fait pour Avatar dans le derrière bout, là. J'en ai fait avec les standardistes, parce qu'avant d'être une espèce de show de freak, on faisait beaucoup d'expérimental.
Ben oui, avec des gars comme Éric Couture et
Renaud,
tout ça.
Là, avant ça, Renaud Paquette.
Ah, Renaud Paquette, oh mon Dieu!
Contrebassiste.
Contrebassiste, oui.
Puis on partait, on travaillait sur un Fostex 4 pistes à cassette, là, puis on partait ça, puis on improvisait on faisait toutes sortes d'affaires très expérimentales. J'en ai fait beaucoup, puis j'en ai fait pour Avatar, je me suis mis un truc pour Vue aussi. Puis, circonstanciellement, j'avais les standardistes, j'ai eu un groupe country,
C'est quand même.
Oui.
C'est assez rigolo aussi.
Mais depuis bientôt 20 ans, je fais surtout du théâtre. Mais il peut y avoir des trucs comme Octobre ou Mille Anonymes qui sont des trucs qui relèvent plus de ce qu'on peut. De façon que considérer comme de l'audio sonore. Mais bon, pour moi, art sonore, ça, c'est tellement large. Je me disais en fin de semaine, en préparant mes trucs, je vais leur enregistrer ma cour, puis les oiseaux, puis je vais modifier.
Dès qu'on intervient un peu sur une bande son.
Des fois, j'écoute ma cafetière. C'est comme, c'est mon beat. Ou c'est perpétuel.
Ben oui, il y a Diane Labrosse qui a fait un disque sur les cafetières.
Alors, oui. Bref, écoute, la pièce dont oui. je parlais, l'enclume des forces.
Oui.
J'ai puisé dans ma collection de disques. Puis ça, c'est une pièce à partir d'un texte d'Antonin Artaud. Clin d'œil à Christian Lapointe, qui travaillait chez Recto Verso. Puis je trouvais qu'il y avait des choses... bon, c'est un album sorti en 69. J'ai mis que la pièce était écrite en 71. Je ne sais pas pourquoi. Les crédits étaient écrits de même. 69, 71. Je trouvais que ça tombait dans le genre. Alors, on va écouter.
On écoute ça.
C'est une nausée. C'est la mer. C'est dans ceci que commence le feu. Le feu de langue. Tissé en torse.
Et oui. Alors, écoute, attends, on a encore une couple de minutes, là, Stéphane. Je vois les frères Paquette.
Ah, les frères Paquette.
Ça, c'est un duo de clowns, ça?
Non, pas du tout. C'est Renaud Paquette et son frère. Renaud Paquette fait partie des Standardistes,
oui.
Un groupe de la glorieuse époque des années 80, quand je faisais de la pop. Je m'étais avancé pas mal dans l'industrie, entre guillemets. Puis, parallèlement, j'avais un groupe compensatoire qui s'appelait les Standardistes. On faisait beaucoup d'expérimentation, mais j'avais entendu des trucs des frères Paquette qui, eux, jouaient avec un truc à deux pistes en inversant.
Okay. Puis en faisant, c'est ça que tu nous racontais. Ils bidouillaient pas mal.
Ils bidouillaient beaucoup. Puis, ces deux frères, ils s'amusaient de même. Là.
Donc,
puis,
c'est Renaud Paquette et son
c'est
frère.
C'est Renaud Paquette qui est assez connu dans la vieille capitale, comme disent les autres. Et contrebassiste, mais un excellent pianiste aussi. Puis, voilà, j'ai pensé à mes deux extrêmes montés ensemble.
Alors, ce qu'ils faisaient. On écoute les frères Paquette.
Thank you.
Ça, c'est comme tu dis, comme tu disais, Ardon, ça, c'est vraiment un take. Là, puis on y va, bang,
ben,
puis
je pense,
ça prend comme ça passe.
C'est Renaud qui pourrait le dire, mais je pense que c'est le même
fonctionnement.
On fait Chopin, je prends le banjo, puis on gosse un peu, puis on part. Ça a été une influence pour les standardistes, entre autres. Mais c'est de faire des trucs sur le fly, puis c'est bon ou c'est pas bon, ou est-ce qu'on peut récupérer ce qu'on a fait, le virer de bord, ralentir, puis rajouter d'autres choses. Les standardistes, c'est parti comme ça. C'est
ben, parlons-en des standardistes. On peut pas ne pas en parler.
On pourrait, mais...
Mais non, je pense que c'est un incontournable. Écoute, t'as choisi une pièce qui s'appelle « Autour du monde ».
C'est l'album. C'est-à-dire la 14e
cassette. La bonne
cassette. Affaire. Oui, la bonne affaire. C'est plus dans le style, là, plus expérimental. Parce qu'on a une période où on chantait des chansons québécoises, on faisait des chansons françaises. Mais avant ça, on faisait beaucoup de trucs expérimentaux.
Ah, ça, je savais pas ça.
Mélangeait des parties de jazz, standard de jazz, standardiste. Puis on composait des affaires. Ben, composer. On improvisait des trucs. Ça, c'est un exemple de musique spontanée, disons. Mais quand même, il y a une intervention après aussi. On travaille sur certaines pistes. Voilà.
Ben Stéphane, merci beaucoup d'être passé avec nous. Espérons qu'on va pouvoir se reprendre. on pourra s'en reparler. Alors, c'était Stéphane Caron avec nous. Et on vous dit à la semaine prochaine. C'était Gaétan Gosselin, Jean-Pierre Quay. À la semaine prochaine. Bye bye. Et on se laisse donc sur les standardistes. Une bonne affaire.
Thank you. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique.
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.